Allez, on marche encore une petite heure.
Prêt tout le monde? On est prêt.
Allez, zou.
C'est la boisson la plus consommée dans le monde. Non, il ne s'agit pas du café ni de la bière, mais bien du thé. 25 000 tasses de ce breuvage seraient consommées chaque seconde dans le monde. Que de chemin parcouru pour cette boisson, apparue il y a plus de 3 000 ans en Chine. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur les routes du thé en compagnie de deux connaisseurs. François-Xavier Delmas, fondateur du Palais des Thés, auteur de Tea Sommelier aux éditions Duchesne. Il explore les régions productrices de thé depuis près de 30 ans. À la recherche des meilleures récoltes, il va nous raconter ses découvertes et ses rencontres en Chine, en Inde, au Sri Lanka ou encore en Afrique. Également avec nous, Éric Birloez, agronome et sociologue de l'alimentation. Il signe l'article « Quand le thé étend son empire » dans le dernier numéro de la revue Relief, où il fait le récit de cette route commerciale du thé qui infuse sa légende depuis des millénaires. Et puis en fin d'émission, nous tenterons de joindre Loïc Blaise qui se trouvera peut-être dans le cockpit de son hydravion au-dessus de l'océan glacial arctique. On croise les doigts pour que ça réponde.
Pour vivre, toutes les espèces ont besoin de boire et de manger. Les circonstances dans lesquelles on boit ont des motifs profonds. Pour étancher sa soif, on boit de l'eau. Pour réconforter la mélancolie, on boit du vin. Pour chasser la torpeur et la somnolence, on boit du thé.
Ce texte a été rédigé par un moine chinois, Lu Yu, au 8e siècle. Il rédige à ce moment-là le premier traité exclusivement consacré au thé. Éric Birloez, ça montre l'importance de cette boisson dans ce pays et depuis longtemps.
Et depuis longtemps. Alors les premiers textes sur le thé, ils ont à peu près 2000 ans. Mais là, c'est la première fois avec Lu Yu qu'on a un ouvrage qui est dédié au thé, qui ne parle que du thé. Et donc, c'était il y a à peu près 1200 ans.
François-Xavier Delmas, on a l'impression qu'en Chine, le thé, on en boit depuis la nuit des temps.
Alors depuis la nuit des temps, je ne sais pas où, à quoi elle remonte, mais ça fait au moins 3000. En tout cas, on sait que ça fait plus de 2000 ans qu'on boit du thé en Chine. Et s'il y a un pays de thé, c'est vraiment la Chine. Je vais dans beaucoup d'autres pays. Il y a une variété de thé. Vous avez des thés verts, vous avez toutes les couleurs, des thés verts, des thés noirs, ce que les Chinois appellent thé rouge, des thés bleu-vert, des thés sombres, des thés blancs. Toutes les couleurs du thé, une richesse gastronomique incroyable.
Et vous appréciez tout particulièrement la région du Yunnan en Chine, où est né, on considère que c'est vraiment là le berceau du thé.
Oui, le thé vient du triangle d'or, quelque part, aux confins du Mékong, entre la Birmanie, le Laos, et donc dans le Yunnan, c'est là aujourd'hui où il y a des théiers sauvages, il y a des théiers millénaires, et vous voyez les gens qui grimpent dans les arbres pour aller récolter les feuilles de thé, c'est un truc incroyable. Enfin, c'est une région, bon, j'y pars mardi là-bas justement, c'est une région que j'aime beaucoup, après c'est pas la seule.
Ouais. Mais elle ressemble à quoi cette région, puisqu'on commence par le...
Accidentée, ouais. Et colorée, et vous avez une mosaïque, c'est une mosaïque aussi bien de climat, parce que quand vous êtes dans le nord du Yunnan, vous êtes quasiment dans le Tibet, vous voyez passer les yaks. Très pratique quand vous voulez boire du thé à la façon des Tibétains. Vous
voulez
passer les yaks avec
du
le beurre de yak rance, ça je vous laisserai l'essayer quand vous êtes sur place, vous allez voir, c'est pas forcément évident. Et le sud, bon, on est quasiment en Thaïlande, c'est tropical, c'est des maisons sur pilotis, il y a des palmiers, des cocotiers, des bananiers partout. Il y a un monde qui sépare ces différentes régions et beaucoup de minorités. Vous avez des Dai, plein de gens, des Nasher, des Dai, beaucoup de populations différentes, où du coup les maisons vont être différentes, les cultures vont être différentes, les modes de vie, il y a des matriarcats, il y a des tas de choses assez marrantes. On va manger dans le sud, vous allez pouvoir manger des frelons parfois, sauter à l'ail et aux frits à l'ail et au gingembre.
Bon, ça se marie bien avec le thé, le frelon sauté à l'ail.
Oui, vous êtes content de prendre du thé juste après pour laisser passer tout ça, mais la tête du frelon, ça va, j'ai un petit peu de mal avec l'abdomen.
Ah bon, très bien, c'est un connaisseur. Éric Birloez, les légendes à propos de l'origine du thé, elles sont poétiques aussi, ces légendes, elles sont très belles.
Oui, alors il y a beaucoup de légendes, il y a trois légendes principales. Alors il y a d'abord la légende chinoise, et puis ensuite il y a deux autres légendes assez proches l'une de l'autre, qui sont la légende indienne et la légende japonaise.
Alors la légende chinoise,
elle est très précise, elle nous parle d'un empereur légendaire, mythique, s'appelle Shennong, qui, alors là c'est très précis, c'est en 2737 avant Jésus-Christ, se promène à chaud, souhaite se reposer à l'ombre d'un arbuste. Il a soif, il demande qu'on lui amène de l'eau bouillie. Encore aujourd'hui, en Chine, on boit de l'eau chaude. Et puis, il y a un coup de vent qui fait que quelques feuilles de l'arbuste sous lequel il est assis vont se poser dans sa coupelle. L'eau va se colorer, l'empereur va boire, va trouver l'infusion absolument délicieuse. Mmh. Alors vous l'avez compris, évidemment, c'est sous un théier qu'il s'est reposé. La légende indienne nous parle, là encore, d'un personnage mythique, un prince, mais qui est aussi un moine bouddhiste, qui s'appelle Bodhidharma, et qui quitte l'Inde pour aller en Chine, pour créer une branche du bouddhisme, qui est le bouddhisme Chan, qui va donner le zen. Alors il a fait le vœu de ne pas dormir avant d'avoir accompli sa mission. Mais au bout de 3 ans, il est quand même un peu fatigué.
Oui, il ne dort pas pendant 3 ans.
Il sent le sommeil qui le gagne, et là, de manière tout à fait machinale, il va mâchonner quelques feuilles d'un arbuste qui est à côté. Et là, il se rend compte que ces feuilles ont des vertus stimulantes et donc il peut être éveillé. Il va continuer à mâchonner des feuilles de thé pendant 6 ans. Il ne va pas dormir pendant 6 ans. Chez les Japonais, la légende n'est pas très différente. C'est toujours le même personnage. Simplement, il s'endort en méditant. Et quand il se réveille, il est furieux. Alors, il décide, pour ne plus s'endormir, de se couper les paupières. Les paupières tombent sur le sol et à l'endroit même où elles sont tombées, eh bien, vont apparaître, bien sûr, 2 plants de théier.
Diversité des légendes et grande diversité aussi des thés, de leur goût et puis de leur aspect aussi. On retrouve notre moine chinois Lu Yu qui n'avait pas manqué de souligner cette diversité d'aspects.
Le thé peut présenter 1000 aspects. En gros, certains thés ont l'aspect des bottes de barbares, au cuir sec et tanné. D'autres évoquent un poitrail de zébu aux plis tombants, des volutes de nuages s'échappant d'une montagne, un miroir d'eau caressé par une légère brise ou de l'argile de potier tamisée et purifiée avec de l'eau. D'autres encore ressemblent à une terre nouvellement travaillée, avec ses sillons formés par une forte pluie. Ce sont autant de thés raffinés à l'excellente saveur.
Très poétique, la
Exactement.
Description.
Mais ça ressemble, justement, je trouve que ça va bien avec les légendes. C'est qu'il y a, notamment en Chine, vous avez une poésie pour tout ce qui entoure le thé assez incroyable. Tous les noms de thé, là, vous en avez, quelques-uns ont été cités, mais vous avez langue de moineau, pépin de pastèque, tigre bondissant, jeune fille dans les nuages, etc. Enfin, il y en a énormément. Et peut-être le point commun entre les légendes et les noms de ces thés, c'est qu'il y a toujours dans le thé un aspect extrêmement humain. Et ce qui est fascinant aussi, là on parle d'endroits où on fait pousser le thé, aussi là où on le consomme, c'est tous ces rituels qu'il y a autour du thé. Dans tous les pays où le thé a été, il y a eu des rituels qui sont créés, donc il y a une interface entre l'homme et la plante. Et ça, on n'est pas que sur une plante, on est aussi de savoir ce que des gens en ont fait. D'un pays à un autre, ils en ont fait des choses différentes avec des rituels.
Alors, on va y revenir aux rituels, mais cette diversité des thés, à quoi, c'est la même plante à chaque fois. Alors pourquoi il y a autant de formes et de goûts différents? Qu'est-ce qui fait, d'où vient toute cette richesse, cette diversité?
Est-ce que vous sauriez me répondre sur le vin? Parce que c'est à peu près la même chose, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a... Alors, c'est à la base... Le thé, c'est du camélia. Ouais. Donc, il y a 2 sortes de camélia. Après, il y a plein de cultivars, exactement comme des cépages dans le vin. Si on pense au vin, je pense qu'on comprend très facilement le thé. Donc, vous avez des cépages. Et ensuite, vous avez des feuilles qui sont récoltées. Et avec ces feuilles-là, dans la manufacture, dans le bâtiment où on va traiter les feuilles de thé, vous allez faire des gestes différents. Donc, vous allez peut-être, dans certains cas, ne pas oxyder la feuille. Donc, vous allez avoir soit un thé blanc, soit un thé vert. Vous allez, au contraire, l'oxyder un peu. Vous allez avoir un thé bleu vert. Vous allez l'oxyder complètement. Vous allez avoir ce qu'on appelle un thé noir et ce que les Chinois appellent un thé rouge. Si vous voulez le fermenter, vous allez avoir un pu'er. Donc, en fait, en théorie, avec des feuilles de thé, vous pouvez faire n'importe quelle couleur de thé. En pratique, vous avez des traditions. Et si on va dans un village, alors si on est en Chine en ce moment-là, on va penser à Longjing. Bon, à côté de Hangzhou, à Longjing, on va faire un thé vert bien précis avec une forme, c'est justement la langue de moineau. Et toute cette ville-là, tout ce village-là va ne faire que ce thé-là parce que c'est une donc il y a une notion de tradition. Ils vont pas s'amuser à faire un thé autre que celui qu'ils font dans ce village-là. Donc il y a une notion de terroir, de cépage, de tradition. Et c'est ça qui détermine le thé qu'on fait à un endroit bien précis. Mais théoriquement, à partir de n'importe quelle feuille de thé, on peut faire n'importe quel type de thé.
Éric Berloez, le thé a toujours été une boisson noble, très appréciée des élites dans l'histoire.
Oui, alors tout simplement, d'abord parce que dans un premier temps, les quantités étaient peu abondantes, et donc c'est une boisson qui est réservée à l'aristocratie et même à l'empereur. Alors on parlait juste à l'instant des rituels dans les anciens empires chinois, la récolte la plus fine, la plus délicate était bien évidemment destinée à l'empereur, et c'était des jeunes filles vierges qui, avec des ciseaux d'or, couper les bourgeons et les premières feuilles du thé, et elle devait tous les jours, c'est un peu une légende bien sûr, changer de robe, porter des gants de soie parfumés. Donc vous voyez, on fait pas les choses à moitié avec le thé.
Ah oui, alors là effectivement on est dans le cérémonial et le codifié. Alors sans aller jusqu'à ces extrêmes, il y a toujours effectivement une part de rituel pour boire le thé, et qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes dans tous les pays. Commençons par le berceau du thé, les rituels chinois.
Donc le thé, on met de l'eau chaude, très chaude, bouillante, dans la théière. Mais la première partie, on ne boit pas ce thé. C'est simplement pour laver les feuilles de thé. Mais il faut être très rapide pour que l'odeur ne s'excelle pas.
Alors là, c'est presque même plus une façon de le préparer que vraiment un rituel. Mais chaque pays, et même au sein d'un pays, chaque région a sa façon de faire.
Chaque pays a sa région, chaque région a sa façon de faire. Il y a peut-être le point commun, c'est, je pense que c'est l'hospitalité.
Ouais.
C'est-à-dire que le thé ou chacun des rituels vient toujours pour l'idée de se consacrer, même la cérémonie japonaise, d'essayer de faire au mieux quelque chose que l'on s'apprête à offrir à quelqu'un. Et que vous soyez en Angleterre avec le tea time, que vous soyez au Maroc avec le thé marocain, le rituel marocain qui est vraiment un rituel d'hospitalité, que vous soyez au Tibet avec le beurre de yak, en Chine ou encore au Japon avec le chanoyu, la cérémonie japonaise. Dans tous les cas, il y a l'idée de consacrer un moment, de faire une pause. D'abord, on est assis. Mmh. Ça, c'est quand même spécial au thé. Le thé, on est assis.
Oui.
Contrairement à l'eau de boisson que les gens prennent parfois en France après le repas, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc, un peu noir. Bah, le thé, on est assis et c'est une pause. On arrête son téléphone portable avec son pouce ou machin. C'est juste, on respire.
Ouais, vous êtes en train de nous dire que le café, c'est une boisson d'excité et que le thé, c'est une boisson de zen.
De stimuler.
Ouais.
Exactement. Le café est un excitant, le thé est un stimulant.
C'est exactement ça. Et moi, ce qui m'avait frappé en participant à des cérémonies du thé à Kunming, d'ailleurs, dans le Yunnan, c'est qu'on prend vraiment son temps et qu'on accorde la plus grande attention à ce que l'on fait. Donc on est vraiment dans l'esprit de la méditation de pleine conscience, où on est ici et maintenant, autour du thé, et on ne fait pas autre chose, et on prend véritablement son temps.
Il a été adopté partout où il est passé, finalement, ce thé. Il a énormément voyagé après être né en Chine. Il a énormément voyagé avec ce qu'on a appelé ses routes du thé. C'est quoi les routes du thé, Eric?
Oui, alors c'est bien de le mettre au pluriel, parce qu'il y a eu énormément de routes du thé. Alors le thé, il a d'abord quitté la Chine pour aller au Tibet. Donc il y a une première route qu'on a appelée la route du thé et des chevaux. Là encore, il y a une légende, qui est celle d'une princesse chinoise qui part pour épouser le souverain du Tibet. Elle emmène avec elle du thé, le fameux pu'er dont on parlait tout à l'heure, du Sichuangbanna, du sud du Yunnan. Et quand elle arrive, eh bien, la monnaie d'échange, ce sont des chevaux, d'où le nom de la route du thé et des chevaux, parce que les Chinois avaient besoin de ces petits chevaux rapides, agiles, robustes, costauds, tibétains. Donc ça, c'est la première route du thé. Elle part du Yunnan. Il y a une autre branche qui part de la province voisine, peut-être du Sichuan. Et puis, elles se rejoignent pour arriver jusque Lhasa. Donc c'est un voyage de 2500 kilomètres. Ça, c'est le premier voyage du thé. Ensuite, il y a le voyage du thé au Japon. Et là, ce sont des moines bouddhistes japonais qui viennent en Chine étudier des textes sacrés, qui rentrent chez eux, donc on est au 8e siècle, avec du thé, qui développent la culture du thé vert, la cérémonie du thé dont on a parlé. Et puis ensuite, on y viendra plus tard, évidemment, le thé par la conquête de l'Europe, de la Russie et évidemment plus tard des autres continents.
Allez, nous partons sur ces routes du thé d'hier et d'aujourd'hui, le temps d'un bivouac sur France Inter, en compagnie de François-Xavier Delmas et Éric Birloise.
It's a wonderful time for love. It's a wonderful time for love. The sun shines down from above.
It's a wonderful time for love. And you think you have all you've dreamed of, with all the gray blue skies just ain't enough. When the sun goes down, can we sleep safe and sound? A wonderful time. Time for dealing a different game, the one where we don't have to place the blame. Such a beautiful time to rise and walk away from all the endless lies. I try to see the world through other eyes.
It's a wonderful time for love. C'était Norah Jones dans Le temps d'un bivouac sur France Inter.
Sous prétexte que l'état de l'eau chaude à 4 heures du matin est important, certains commencent à chauffer l'eau dès le soir. C'est une erreur. Lorsque les oiseaux commencent à chanter, levez-vous. Examinez l'intérieur du brasero, allumez le feu, placez les premiers morceaux de charbon de bois, puis rendez-vous au puits. Puisez-y de l'eau pure, apportez-la à l'office, rincez la bouilloire, remplissez-la d'eau et posez-la sur le brasero. Ce sont les règles de la cérémonie du thé auxquelles on se conforme chaque matin.
Cette fois-ci, nous sommes arrivés au Japon. C'est sérieux, hein, la façon de préparer un thé. Au Japon aussi, ça ne s'improvise pas, on le voit, hein, François-Xavier Delmas. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, il y a plein de façons de consommer le thé. Ça peut se mâchonner. Alors, expliquez-nous ça.
Alors, il y a eu plusieurs manières de consommer le thé. Les Japonais, d'ailleurs, notamment avec le matcha, continuent à consommer du thé pulvérisé. En fait, on a utilisé d'abord les feuilles pour en faire une sorte de soupe. Après, on a pulvérisé les feuilles pour en faire de la poudre. Et après, on a fait infuser les feuilles. Mais le thé tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça c'est plutôt à l'historien de répondre, mais le thé tel qu'il est consommé aujourd'hui, c'est qu'une troisième étape, et il y a eu des étapes préalables. Le thé tel qu'il est consommé au Tibet correspond à la première étape, et le thé pulvérisé japonais correspond à la deuxième étape. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que s'il y a un pays où le thé est codifié, encore plus, beaucoup beaucoup plus qu'en Chine, c'est vraiment au Japon, où vous avez vraiment une manière de faire, mais qui se voit d'ailleurs dans la vie de tous les jours, et aussi bien quand vous visitez des plantations de thé, c'est extraordinaire, mais c'est au cordeau, vous voyez des champs de thé, mais c'est la façon d'aller cueillir chaque feuille de thé. Vous regardez la façon dont sont faits les théiers et les champs de thé, c'est organisé de façon absolument incroyable. Ouais. Et ça correspond d'ailleurs à cette cérémonie japonaise qui est en parfait silence et où on va avoir chaque geste qui est là, qui est maîtrisé. Il va falloir des années pour apprendre à verser l'eau d'une certaine manière, etc.
Et là, il y a une dimension spirituelle, puisque le premier à avoir codifié dans les moindres détails la cérémonie du thé Chanoyu, donc la cérémonie japonaise, encore une fois, c'est un moine bouddhiste, Senno Rikyu. On est au XVIe siècle. Mm-hmm. Et là, encore une fois, dans les moindres détails, il explique comment les choses doivent se dérouler. Donc on a une esthétique, on a également une éthique, parce qu'on a les valeurs de respect, on a les valeurs d'humilité, d'harmonie, qui sont au cœur de la cérémonie du thé. C'est bien plus que boire du thé.
François-Xavier Delmas, vous cherchez des grands crus, ce qu'on appelle des grands crus de thé. Ça existe, hein, les grands crus dans ce domaine-là?
Oui, ce qui me plaît, c'est d'aller chercher les meilleurs thés possible et d'aller surtout encourager aussi. Il y a des pays où, si on prend le cas du Japon, vous avez des fermiers japonais qui font des choses absolument extraordinaires et d'ailleurs qui sont pas très demandeurs d'aller exporter leur thé, parce qu'au Japon, ils sont même étonnés quand vous êtes un étranger, oui, un geijin, et que vous êtes là à vouloir lui acheter son thé. Il voudrait être sûr que vous soyez à même de l'apprécier. Donc lui, il est pas forcément demandeur et lui, j'ai pas allé l'encourager. Bien sûr que ça le rend fier, mais il y a d'autres endroits du monde où je vais et où pour moi c'est vraiment important d'aider les personnes à faire des thés les mieux possibles. Et oui, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité, parce que si on veut que le monde peut-être aille un tout petit peu mieux, je pense qu'il faut
sauver le monde avec le thé.
Non, pourquoi je pas. Sais bon, alors d'abord, je pense que le thé, ça peut changer la vie de beaucoup de gens, parce que c'est, encore une fois, c'est se consacrer au moment, arrêter de penser ni à après ni à avant, de juste être heureux avec ce qu'on a et de prendre un moment pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que c'est important. Après, je pense que plus vous allez dans des très très beaux thés, plus il va être cultivé proprement par des gens qui seront valorisés. Et je pense qu'il y a un cercle vertueux, et c'est ce cercle vertueux qui m'intéresse.
On va le prendre, ce temps de déguster le thé, parce qu'évidemment, vous êtes venu avec quelques gobelets. Alors, je vois, là, c'est vous, pas, qu'on entend faire ces petits bruits.
Ça s'appelle la rétroolfaction, mais si vous voulez bien ressentir tous les arômes du thé, oui, il faut faire circuler de l'air dans la bouche et expirer par le nez.
Bon, en même temps, c'est radiophonique, alors absolument. Allez-y, faites donc de la
rétroolfaction. Donc là, vous êtes sur un Ichimancha japonais, donc il a infusé, il y a plusieurs manières de faire. Là, pour venir ici, j'ai trouvé plus pratique d'avoir fait infuser du thé dans de l'eau à température ambiante.
Mais moi, je pensais que c'était complètement sacrilège de faire un truc pareil. Quand on a des professionnels du thé, des fins connaisseurs, ils nous disent l'eau doit bouillir, enfin pas bouillir.
Oui, il y a des ayatollahs, et je peux parfois l'être. Par exemple, vous voyez ici, vous avez un Ichimancha japonais. Si je le prépare à l'eau chaude, je veux une eau qui est pas supérieure à 70 degrés et qu'il infuse 2 minutes. En revanche, quand vous faites à température ambiante, le thé infuse assez mal et du coup vous faites un tout petit peu moins gaffe à ce que ce soit 45 minutes, 55 minutes, ça change assez peu. Donc si vous n'êtes pas très si vous n'êtes pas très attention, vous pouvez l'utiliser. Mais ce qui est assez intéressant dans une infusion à froid, il faut surtout pas faire chaud et laisser refroidir, parce que c'est pas du tout agréable et ça donne quelque chose de trouble. Mais dans cette expérience là vous pouvez l'essayer. Vous avez une boisson qui est assez différente et peut-être ça vous correspond pas à l'idée que vous avez du thé, mais alors on peut aussi penser aux associations. Moi, je travaille avec beaucoup de chefs dans des associations thé et mets. Il y a des choses intéressantes. Imaginez que vous avez un poisson. Alors, ça peut être soit des sashimi, mais aussi, on peut penser à un poisson très qualitatif, une sole à peine cuite. Et ben, vous allez avoir comme ça un thé à température ambiante et ils vont s'accorder très bien. Le thé, il peut aussi sortir de la théière et le thé, il va à table aujourd'hui. Alors, et c'est ça aussi qui est intéressant.
Là, il est très clair, là, celui qu'on goûte. Il est
très clair.
Il est presque jaune, en fait, hein, jaune.
Il est vert jaune, c'est très clair. On est un peu dans des parfums d'algues, d'épines. On est à la fois végétal, on est marin, iodé, végétal.
C'est un thé du Japon. Hein,
c'est un thé japonais, absolument. Alors, Ichimancha, ça veut dire la première récolte. Donc lui, il a été récolté entre le 1er et le 8 mai de cette année.
D'accord. Et alors, quels sont les termes que l'on emploie? Pour le vin, par exemple, il y a un vocabulaire pour décrire un thé. Là, alors, quels sont les mots que vous dites?
Quand vous mettez quelque chose dans votre bouche, quand vous avez mis un aliment dans votre bouche, vous avez 3 sens qui sont concernés. Le goût, le toucher et les odeurs ou les arômes. Et donc, vous avez un vocabulaire pour chacun. Donc, si on parle de goût, est-ce qu'il est sucré, salé, acide ou amer? Ou ce qu'on appelle umami, qui est une cinquième saveur. Donc lui, je dirais qu'il est plutôt umami. Ah. C'est quelque chose qui est très ample et va absolument dans toute la bouche.
Ça tombe pas, parce que l'umami, c'est celui qu'on a le moins en tête.
Il est moins connu. Après, vous avez le toucher. Est-ce qu'il est lisse? Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce que quand vous l'avez en bouche, vous avez l'impression d'avoir plutôt léché une motte de beurre ou la peau de la pêche? Vous voyez les sensations comme ça très différentes. Bon, bah là, on a quelque chose d'un peu gras, un peu visqueux. Il y a une épaisseur. Et puis, il y a ces arômes. Vous voyez, là, je suis en Bretagne, moi, quand je sens ça, j'ai l'impression de la, à marée basse, vous avez à la fois presque le
côté
bulot, vous avez l'algue, vous avez le poisson, vous avez le bulot et vous avez aussi le légume vapeur, l'épinard vapeur. Et voilà, c'est un produit gastronomique, hein. Le thé, c'est pas juste un truc. C'est pas un machin pour vieille dame.
Oui, mais je dis le contraire, s'il vous plaît, François-Xavier Delmas, Éric Birloez. C'est le thé, on lui apporte pas que le goût, la gastronomie, on lui donne aussi des multiples vertus depuis aussi dès le début.
Oui, depuis le début. Hein, effectivement, les premiers textes qui parlent du thé, donc les premiers textes chinois, sont des traités médicaux. Et lorsque le thé arrive en France, par exemple, au début du au XVIIe siècle, hein, la France le découvre à la fin du règne de Louis XIII, en 1636, eh bien on va tout de suite chercher les bienfaits du thé. Alors on dit qu'il est bien sûr stimulant et pas tonique, et pas excitant, qu'il est diurétique, mais on considère également qu'il est souverain contre les maux de tête et contre les maux de ventre. Alors on sait que Mazarin, le principal ministre de Louis XIV, buvait du thé tous les jours pour sa goutte, que le roi Soleil lui-même consommait du thé pour ses vapeurs et ses vertiges, mais le roi Soleil avait une belle-sœur, Madame Palatine, qui trouvait que le thé n'avait pas d'autre intérêt que de vider la vessie, et comme elle était d'origine allemande, elle préférait la bière chaude, épicée à la muscade.
On lui prête encore aujourd'hui bien des vertus à ce thé.
Voilà le printemps, c'est l'époque des nettoyages. Nettoyez votre sang et votre tube digestif avec une tasse de thé des familles qui donne bon estomac, bon foie, bon intestin. Ah, qu'il est bon à boire tous les soirs ce mélange de 18 plantes aromatiques. 6 francs la boîte chez votre pharmacien. N'oubliez pas, thé des familles.
Pas de santé, santé des familles.
Pas de santé, santé des familles, vous allez m'en vouloir, François-Xavier Delmas, parce que vous avez trouvé que ça sent un peu l'ancien, ce son que je vous fais écouter là. Cela dit, vous dites, c'est un stimulant, ça n'est pas un excitant, pourtant on trouve de la caféine dans le thé.
Oui, on trouve de la caféine. Et
qu'est-ce
c'est
qu'elle
la même,
a différent alors?
Elle a rien de différent, sauf qu'elle est associée à quelque chose qu'il n'y a pas dans le café, et qui s'appelle les tanins. Et les tanins vont gêner cette caféine pour aller dans le sang. Et du coup, ils vont bloquer, ce qui fait que la caféine du thé va aller très lentement dans le sang et va prendre beaucoup plus de temps. Et voilà pourquoi. Alors que la caféine du café va directement dans le sang, donc vous donne un coup où vous fait trembler, etc. Et le thé, pas du tout, c'est un effet à long terme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on parlait des monastères de moines. Mais pourquoi est-ce que c'est les moines qui ont fait connaître les thés de monastère en monastère? Parce que c'était des érudits, c'était des lieux d'érudition, les monastères. Mmh. Et ils se rendaient compte que le thé les aidait à avoir l'esprit, à maintenir l'esprit en éveil, et c'est pour ça que le thé, c'est par ses propriétés de maintenir l'esprit en éveil que le thé s'est fait connaître de monastère en monastère.
Mais c'est-à-dire que si on boit trop de thé, même si la caféine se distille assez lentement, si on en boit beaucoup, au bout d'un moment, on peut ressentir des effets proches du
café. Non, le thé empêche moins de dormir, mais si jamais il vous l'empêche, c'est pour beaucoup plus longtemps. Quel bonheur, on va pouvoir prendre des livres et s'instruire.
Ouais. Ah, il le vend bien son thé, hein, Xavier-François Delmas.
Non, je l'aime.
On poursuit notre balade sur les routes du thé. Nous allons partir dans un instant en Inde, histoire d'en apprendre un peu plus sur le fameux Darjeeling.
Thank you.
vis-à-vis, c'était Calypso Valois sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Je suis arrivé à la Lamasserie à 13 ans et j'ai travaillé dans la caravane qui appartenait à la Lamasserie. Nous sommes allés en Inde et au Népal en transportant surtout du thé et des tissus. En traversant le Tibet, nous échangions du thé contre du beurre de yak. Une brique de thé contre deux mottes de beurre de yak. Tous les trois ans, quatre nouveaux lamas étaient choisis pour s'occuper de la caravane. Ils allaient à Zhongyan, qu'on appelle maintenant Shangri-La, à Xiaguang et à Kunming pour acheter du sucre, du riz, du thé et d'autres denrées. Puis la caravane les emportait à Lhasa pour les vendre. C'est comme ça qu'on faisait face aux dépenses quotidiennes de la Lamasserie.
Extrait du doc sur l'ancienne route du thé d'Arte. Nous sommes toujours en compagnie de François-Xavier Delmas, fondateur du Palais des Thés, et de Éric Birloez, sociologue de l'alimentation, agronome. On l'entend avec cet extrait, Éric Birloez. Les caravanes des thés, c'est encore très frais. C'est-à-dire que ce monsieur a le souvenir, dans son enfance, d'avoir vu passer ces caravanes.
Mais oui, c'est ça qui est incroyable. C'est à la fois très récent et en même temps très ancien, parce qu'on a tous entendu parler de la route de la soie, qu'il faudrait mettre là encore au pluriel, les routes de la soie. Évidemment, et le monsieur le dit d'ailleurs, on fait voyager du thé, mais également tout un tas d'autres denrées. Et donc, par exemple, le thé, on a parlé tout à l'heure du Tibet, on a parlé du Japon, le thé est allé également jusqu'en Russie, hein, les Russes sont des grands amateurs de thé noir, et le thé leur parvenait par la route de la soie qui partait de Xi'an, le centre de la Chine, et qui, sur des milliers de kilomètres, sur le dos des chameaux, arrivait jusque dans l'Empire russe. Ça s'est arrêté en 1880, quand on a ouvert la ligne de chemin de fer, le fameux transsibérien, et là on ne mettait plus un an et quelques mois, mais seulement deux mois pour faire voyager le thé et les autres denrées. Et donc, voilà, les caravanes de chameaux, du coup, étaient moins compétitives.
Et on l'entendait dans l'extrait, hein, ces caravanes allaient aussi jusqu'en Inde, François-Xavier Delmas. En Inde, on trouve l'un des thés les plus prisés. Alors, vous allez nous dire si c'est mérité, cette réputation qu'on fait au Darjeeling.
Bien sûr, Darjeeling, c'est la grande appellation. L'Inde fait pousser du thé dans trois régions. Alors, l'Inde, c'est un pays récent. Hein. Ça fait que 150 ans, à peine plus, qu'on fait pousser du thé en Inde. En fait, il existait à l'état sauvage. Mais c'est les Anglais qui ont organisé toute la culture du thé en Inde. Et le thé pousse dans la région de l'Assam, dans la région du Nilgiri au sud et à Darjeeling. En termes de quantité, c'est rien du tout par rapport à ce qui est produit en Assam, mais c'est très qualitatif. Donc là, Darjeeling, c'est des paysages, c'est les contreforts de l'Himalaya. Vous avez une petite route, mettez 3 heures à monter une toute petite route avec tous les plis de montagne. Alors, les gens ne ressemblent pas du tout à ce que vous imaginez être des Indiens, parce qu'en fait, ce sont des populations qui ont été déplacées par les Anglais, qui viennent du Népal. Donc eux-mêmes sont Indiens, mais se disent Népalais de culture. Et vous êtes dans la brume, vous avez la végétation change, on est à 2000 mètres d'altitude, et vous êtes dans ces brumes parce que le thé adore les terrains très en pente, et le thé adore l'eau à condition que l'eau ne stagne pas. Et le thé aime énormément la brume et qu'il y ait du soleil, mais pas tout le temps. Vous êtes dans un endroit que j'aime beaucoup, je suis allé énormément, je suis un peu triste parce qu'en ce moment là, depuis 3 semaines, Darjeeling est complètement fermé parce qu'il y a un mouvement autonomiste qui demande le Gorkhaland, le pays des Gourkhas. Et ils souhaitent que le Gorkhaland fasse partie des États au sein de l'Union indienne, et l'Inde résiste, et du coup là c'est un peu catastrophique en ce moment, mais j'espère que ça ira mieux, parce que j'y vais en septembre et je verrai comment ça. Et ils font des très beaux thés, et ils font des thés très riches gustativement, parce qu'entre le printemps, l'été et l'automne, le temps est complètement différent, ce qui fait que c'est un des seuls pays au monde où vous avez une variation de goût incroyable d'un thé à l'autre. Bah alors les Indiens disent que c'est le champagne du thé. Moi, j'aime pas ça. Je vois pas pourquoi le champagne c'est le champagne et le thé c'est le thé. Il y a pas besoin de lui accoler autre chose. Mais vous avez un thé d'une grande subtilité, très végétal, floral au printemps, plutôt fruité en été et boisé en automne. Oui, on est quand même sur des musts. On est très loin du thé indien de tous les jours que j'aime aussi énormément, qui est le masala chai que vous voyez dans la rue partout, qui est vraiment le thé de la culture indienne. Mais sur un plan gastronomique, Darjeeling, bien sûr, c'est.
Mais ça a l'air d'une subtilité infinie, parce qu'on a l'impression que le même lieu, le même endroit, la même plante, selon les conditions météorologiques, mais même à la demi-journée près, on a l'impression que tout Le moindre détail, le moindre paramètre varie et le goût change totalement.
Mais ça change complètement. Et vous savez, quand je vais à Darjeeling, je vais dormir d'un jour à... chaque jour, je vais changer de plantation et je dors. Mais la nuit, il y a une plantation où j'ai froid, alors que la veille, j'avais chaud. C'est juste, c'est pas la même altitude. Si votre montagne, elle est face au nord, face au sud, face à l'ouest, c'est pas le... Donc vous voyez bien, il y a 87 plantations de thé, mais de l'une à l'autre, les conditions sont complètement différentes. Et en fait, le thé, on n'en finit pas. C'est d'une richesse absolument incroyable. Et pour comprendre, enfin, moi, je sais absolument, ça fait 30 ans que j'essaye de comprendre le thé, mais je sais parfaitement qu'une vie ne suffit pas à faire le tour de la question. Ça, c'est une évidence. Pour comprendre pourquoi tel paramètre fait changer, il y a la question du cépage, il y a la question des variations du climat, il y a de tout ce que font les hommes aussi comme geste qui, tout d'un coup, va changer.
Et donc, le seul moyen de savoir si un thé vaut le goût ou pas, c'est d'y aller, c'est de goûter. Et parfois, eh bien, vous êtes déçu, comme ici, au Sri Lanka.
Quand je vois ça, je sais parfaitement que je n'achèterai pas. Là, ce qui a été récolté, pour moi, il y a un niveau de qualité qui n'est pas... qui ne correspond pas à mes critères en tout cas. Et des feuilles comme ça, toutes seules, sans bourgeons, c'est un peu... Ou alors là, il y a un bout de branche, bon, ben, c'est un peu grossier comme cueillette. On peut mieux faire. Il suffit de regarder la feuille, on a affaire à de la brisure. Donc là, on est vraiment dans des qualités de thé assez inférieures, qui sont proprement imbuvables si on ne rajoute pas du lait.
Je pense que les Français recherchent la gastronomie. Si quelque chose est bon, ils n'y rajoutent rien.
Ils le boivent tel quel ?
Oui, c'est difficile de boire ce thé sans rien ajouter pour un Français.
François-Xavier Delmas, je vois votre sourire. Vous-même, vous souriez devant votre intransigeance.
Ouais, alors... Je suis vache, mais en même temps, c'est bien d'être cash. Parfois, c'est dur parce que je vais acheter du thé. Il y a des gens que j'aime bien et de temps en temps, c'est pas marrant d'avoir... Il y a des personnes, ils attendent tellement que je leur dise du bien de ce qu'ils me font goûter. Et parfois, non, il faut dire les choses. Et si c'est, ça aide pas quelqu'un de faire croire que son thé est bon s'il est pas bon.
Alors, il faut quand même préciser que, ça veut pas dire que tous les thés au Sri Lanka ne sont pas bons. Vous êtes tombé sur des pépites au Sri Lanka, hein, évidemment.
Bien sûr. Et puis, le thé qu'on fait un jour est peut-être différent du thé qu'on va faire le lendemain. C'est là où ça se complique. C'est qu'une plantation de thé fait du thé tout, dans cette région-là du monde, fait du thé tous les jours. Et au Sri Lanka, entre les montagnes de Nourelia, ou si vous êtes au sud, dans ce qu'on appelle les low grounds, entre Gaul et Ratnapura, c'est pas du tout le même climat, c'est pas la même population. Pour moi, parler de thé du Sri Lanka, ça n'a pas de sens. Il y a des thés du Sri Lanka qui n'ont pas du tout, à qui il arrive pas du tout la même chose.
Et il arrive aussi, maintenant, alors il y a des nouveaux producteurs de thé qui se débrouillent très bien, qui commencent à faire des très bons thés, en Afrique notamment. Je crois que vous êtes tomber sur des bons coins à thé en Afrique.
En Afrique, il y a trois endroits où j'ai trouvé vraiment des très bons thés. Alors, il y a un gars, aujourd'hui j'en connais qu'un, j'aimerais bien que ça fasse un peu de tache d'huile, comme on dit, et qu'il y en ait d'autres qui, au Malawi, vous avez quelqu'un qui fait des thés vraiment... Il produit plein de mauvais thés, parce que c'est ça qui se vend, c'est triste. Mais comme c'est un amoureux du thé, il cherche, il a un petit labo, il va mettre au point certains thés. Et moi, j'essaie de le soutenir et de lui acheter ses très beaux thés pour que peu à peu, ça soit une part importante. Sinon, en Afrique, vous avez le Rwanda, un pays très beau de ce que j'ai pu voir, magnifique, et à 3 heures au nord de voiture au nord, 2 heures au nord de Kigali, ou aussi à l'extrême ouest, vous avez des personnes qui font du thé. Et certains font vraiment des très très beaux thés, un pays tellement beau. Et le Kenya. Le Kenya est un énorme producteur de thé. C'est un des plus gros producteurs de thé au monde. Souvent, il fait de la daube pour des thés en sachet, des machins, des brisures, la poussière.
Les thés en sachet.
Les thés en quoi ?
C'est vous qui avez employé le terme.
Oui, je l'associe à un autre mot qui illustre parfaitement et répond certainement à votre question.
Les thés en sachet, ça veut dire rien. Tout est acheté dans le sachet. Aucun ne trouve grâce à vos yeux.
Bon, alors il y a sachet et sachet. Si votre sachet il est en papier, oui, c'est pas la peine de circuler, il n'y a rien à voir, parce que pour traverser l'épaisseur du papier, il faut un truc hyper puissant. En fait, il faut ouvrir le sachet et regarder ce qu'il y a dedans. Si c'est de la balayure et de la poussière, ça ne sert à rien. Oui, si c'est les feuilles entières, ok.
Une fois que vous avez ouvert le sachet, vous ne pouvez plus vraiment vous en servir.
Oui, vous en avez un autre à côté et vous savez si vous allez le voir ou pas.
Éric Birlouet.
Oui, sur le thé en sachet, une petite anecdote. En fait, il a été inventé de manière fortuite, le thé en sachet, puisque c'est en 1908, un Américain, un commerçant de New York, a l'idée d'envoyer à ses clients quelques échantillons des nouvelles cargaisons de thé qu'il vient d'acheter. Alors il les met dans des petits sachets de soie. Mais l'idée, c'est d'aller chercher au fond du sachet les feuilles de thé. Mais il y a des gens qui vont penser que le sachet se met directement dans l'eau. Et donc ils l'utilisent comme un sachet de thé, mais ce n'était pas du tout pour ça qu'il était fait.
Ah oui, d'accord.
Le vrai développement des sachets de thé, c'est quand même plus tard, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, en Grande-Bretagne. Les Anglais sont de très gros consommateurs de...
énorme.
Et mauvais thé en sachet.
Mais alors, quand même, dans le monde dans lequel on vit, on peut aussi consommer un tout petit peu moins d'emballage. Et franchement, on a. Alors, bien sûr, moi, je consomme des thés en sachet, des thés en mousseline, avec des, etc., avec des feuilles entières à l'intérieur. Si je prends l'avion, si je vais dans un hôtel, parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Dans ces cas-là, ça se justifie d'avoir quelque chose avec soi. Mais sinon, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir des emballages et des emballages? On peut, c'est tellement simple de prendre. Le thé, c'est rien. Regardez, c'est juste quelques feuilles. On va les mettre dans l'eau et ça fait du thé. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus?
Très bien. Oui, enfin, faut quand même les transporter, ces feuilles. Il faut bien mettre une boîte. D'ailleurs, vous avez des boîtes devant vous dans lesquelles vous avez.
Petites boîtes durables.
Oui, c'est vrai. Elles sont en métal très jolies, les petites boîtes que vous avez devant vous. Une dernière question pour vous, Éric Birloez. Comment évolue la consommation du thé? Alors, on parlait de l'Angleterre, mais apparemment, ils en boivent beaucoup, mais plus en quantité qu'en qualité.
Oui, et peut-être
qu'on boit du thé ailleurs.
D'ailleurs, alors, quand on regarde les chiffres, mais les statistiques ne sont jamais forcément aussi précises qu'elles le prétendent, mais les peuples qui consomment le plus de thé au monde par habitant et par an, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Indiens, ni les Anglais, oui. Ce sont d'abord les Turcs, puis les Irlandais et les Ouzbeks. Vous voyez, c'est... Alors, oui. Les Chinois, effectivement, ça peut paraître étonnant, mais ils mettent le thé le matin dans leur thermos et toute la journée, ils rajoutent...
Voilà, c'est parce qu'ils rajoutent de l'eau chaude sur les mêmes feuilles.
Oui. En fait, ils sont rédilués.
En liquide, ils en boivent énormément,
exactement.
Mais comme ils refont infuser plusieurs fois de suite les mêmes feuilles, si vous regardez le poids, et les Indiens, ils font pareil avec le thé, le chai, où ils vont faire infuser les mêmes feuilles plein de fois.
Ça, c'est développement durable pour le coup.
C'est sûr. Mais du coup, si vous regardez la consommation de feuilles sèches,
par habitant, ça fait en kilos de thé, de feuilles de thé, c'est pas eux du tout. Ils sont même pas dans les 10 premiers, ni les Indiens, ni les Chinois.
Donc les premiers consommateurs, ce sont
les Turcs.
Les Turcs. Allez, merci messieurs pour tout savoir sur le thé. Il y a bien sûr Thé Sommelier aux éditions Duchesne et ils boivent leur thé. On entend les slurps au micro.
Je n'ai pas là.
Et il y a aussi l'article de la revue Relief numéro 5 sur les routes du thé signé Éric Birloez. Merci,
merci
à tous les deux.
Merci à vous.
Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows. Without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing.
C'était The Inner Light, The Beatles sur France Inter, le temps d'un bivouac. La programmation musicale est signée Elsa Béranger.
Allô?
Allô, allô?
How are you?
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment?
Oui, mais c'est le satellite qui attend.
Eh oui, c'est le satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Et pour l'aventure en direct, nous allons tenter de joindre Loïc Blaise, qui se trouve quelque part dans le grand nord de la Russie, au niveau du cercle polaire arctique, dans un lieu qui se nomme Kurkirov. Alors, il aurait dû être à bord de son avion, dans le cockpit de son hydravion. Si j'ai bien compris, il y a eu une sorte de panne. Donc là, il est au sol. Bonjour Loïc Blaise.
Bonjour, bonjour.
Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous arrive ? Où êtes-vous exactement ?
Alors, je ne suis pas encore au niveau du cercle arctique, hein, je suis encore bien plus bas, je suis à la frontière de la République des Commis. Et en fait, le mécano vient de me faire signe que l'avion était prêt, donc je vais réussir à décoller, donc je suis assez pressé. Parce qu'il faut que j'ai décollé dans les 10 minutes, sinon je vais être pris par le coucher de soleil.
Ah bah très bien, mais vous allez pouvoir décoller, hein. Oui, on va vous libérer dans 3 minutes. Alors, racontez-nous un petit peu l'expédition que vous êtes en train de réaliser. L'idée, c'est un peu un double enjeu, hein. Il y a à la fois, l'idée c'est de témoigner contre le changement climatique qui perturbe cette zone, et puis il y a aussi un peu un combat personnel, un défi que vous vous êtes fixé. Vous êtes atteint de sclérose en plaques et vous aviez envie de faire ce défi dans le Grand Nord.
Absolument. Ben, en fait, c'est la même urgence. Hein, c'est-à-dire trouver une solution, un remède, en tout cas à la sclérose en plaques, c'est un remède de la même urgence que de se battre maintenant contre le réchauffement climatique, puisque là, ce qu'on perd chaque jour qui passe, on ne le retrouvera pas. Et en fait, c'est sous cette urgence commune en fait que j'ai voulu monter cette mission, avec pour objectif aussi de faire la démonstration que même quand on est malade ou méchamment atteint, on peut continuer à se battre et que du coup, si ça motive en tout cas les gens qui ont la même maladie que moi, à continuer à croire un petit peu en l'avenir, avoir envie de rester debout.
Alors là, vous êtes...
On se dit que les...
Oui, Loïc Blaise. Oui, je vous entends. Vous êtes donc dans le Grand Nord. Vous avez, je crois, avec vous un cosmonaute russe. Et quel genre de vol vous avez effectué ? Quel paysage vous avez traversé ?
Alors là, attendez. Excusez-moi, je viens de manger un moustique.
Ah bah décidément, alors, c'est vraiment l'aventure jusqu'au bout.
Hein. Nord du Kazakhstan.
Oui.
Pour remonter vers Kazan d'abord, qui est dans donc c'est le pays tatar en fait. Et ensuite j'ai survolé le pays tatar pour arriver jusqu'à l'oblast de Kirov. Donc c'est surtout des forêts et des lacs sur des centaines de kilomètres. C'est magnifique en fait, c'est fabuleusement beau. Et jusque dans le détail, parce que quand on se pose, on voit des champs de fleurs sauvages qu'on voit plus chez nous. Donc je pense qu'il faudrait poser la question à monsieur Monsanto pour savoir pourquoi ils sont plus là.
Oui.
Mais ici, en tout cas, il y en a des milliers. Des papillons blancs aussi, un papillon blanc qui est éteint chez nous et qui pullule ici.
Et alors, vous êtes, je le disais, avec un cosmonaute russe. Pourquoi ce cosmonaute vous accompagne ?
Je pense qu'il a vu la Terre de haut et que quand on prend de la distance, quand on voit les choses de haut, on s'en sent forcément très responsable. Et donc, il s'est reconnu en fait dans l'urgence, dans le discours de la mission. Et du coup, il m'a apporté son aide. Puis je pense que c'est surtout humain en fait à la base. Hein.
Ouais. Alors, si j'ai bien compris, là, vous êtes en repérage, hein, Loïc Blaise. Vous allez, oh là là, c'est compliqué ce qui se passe là où vous êtes, j'ai l'impression. Vous allez repartir l'année prochaine pour un tour du cercle polaire arctique plus complet. Là, vous étiez en repérage. On va vous laisser reprendre votre hydravion parce que vous nous avez dit il faut repartir très vite. Vous étiez tombé en panne là où vous êtes. L'aventure en direct, c'est parfois de vraies aventures. Je vous souhaite bon courage pour vous sortir de tout ça et puis vous nous raconterez peut-être un jour dans le temps d'un bivouac plus complètement cette aventure que vous vivez dans le Grand Nord russe. Au revoir et bon courage Loïc Blaise.
Merci beaucoup, je vous souhaite une très très belle journée et à tous vos auditeurs également, au revoir.
Au revoir.
Non, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale.
Demain à 16h, dans le temps d'un bivouac, nous partirons pour un bivouac cosmique spécial de 2 heures consacré à la nuit des étoiles, avec pour thème principal ces nouvelles terres, dites terres habitables, que l'on détecte dans notre galaxie. Nous reviendrons aussi sur quelques découvertes spatiales qui ont marqué l'activité de ces derniers mois. À demain donc pour de nouvelles aventures.